ceux qui n'ont pas assisté aux vies précédentes, je vais refaire ma toute petite introduction. Donc, je suis Virginie Baumin, je suis commissaire associée à Béton Salon, un centre d'art et de recherche qui est implanté depuis 7 ans maintenant sur le campus de l'Université Paris 7, mais une association qui existe depuis 10 ans, et dont les activités ont pour but de faire se rencontrer des pratiques artistiques contemporaines et des formes de recherche ou de savoir qui proviennent d'autres disciplines, que ce soit l'histoire, les sciences, l'anthropologie, enfin on a monter un certain nombre de projets qui opèrent comme ça des croisements, soit avec des chercheurs de l'Université Paris 7 comme aujourd'hui, soit avec des gens de l'EHESS, du Quai Branly ou d'institutions internationales. Donc on essaie toujours comme ça dans nos projets de, voilà, d'opérer ces rencontres entre les disciplines et d'essayer d'imaginer des façons de raconter l'art ou de raconter le monde et des questions de société en croisant les points de vue et les expertises. Donc ça fait maintenant 3 jours que dans le cadre de la Fête de la Science, on a invité des chercheurs de l'Université Paris 7, que ce soit un astrophysicien, un physicien quantique. Demain, on aura aussi une personne qui est maître de conférence en art du spectacle et un philosophe des sciences à parler un petit peu de leur discipline et de leur recherche dans le cadre de cette exposition de Camille Henrot, qui s'intéresse notamment aux différents récits, aux différentes tentatives de l'homme de représenter l'univers, de le comprendre, de le raconter à travers des récits à la fois mythologiques, religieux, scientifiques, historiques, etc. Donc, l'exposition agrège comme ça une série de ces tentatives et parle aussi de leur vanité d'une certaine manière. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant, parce que voilà, j'attends de voir quel prisme tu vas prendre toi. Je vois que tu rajoutes des objets dans l'exposition. C'est bien.
Bonjour, je m'appelle Samuel Botani, je suis physicien ici à l'Université Paris Diderot. Je suis un physicien qui travaille aux interfaces avec la biologie. Qu'est-ce que c'est déjà la physique? La physique, c'est la science qui s'occupe de la matière, s'occupe des matériaux, qui s'occupe des forces, qui lie la matière, qui assemble les matériaux, qui s'occupe à comment l'ensemble de ces forces structure la matière, fabrique des structures. Le vivant, c'est des structures qui sont en fait de matière, qui sont liées par des forces. Donc il y a tout un champ de la physique qui porte à comment le vivant, les animaux, les microbes, tout ce qui est vivant, se structure grâce aux forces de la physique, grâce aux propriétés d'assemblage dues aux forces de la physique et aux propriétés des matériaux. Donc, on m'a demandé pour cette fête de la science de raconter une histoire, dans le thème de cette fête de la science sur la cristallographie, qui s'inspire d'objets dans cette installation et qui soit en relation avec mon thème d'activité scientifique. Donc moi j'ai bien visité cette salle avec plein d'éléments dedans, très hétéroclites, assemblés de manière différente, où l'artiste a voulu donner sa représentation de la vie et de l'univers, avec tout un cycle. Si vous l'avez déjà visité, vous avez vu un peu cet assemblage surprenant. Si vous ne l'avez pas encore visité, vous le verrez par la suite. Et moi, là-dedans, comme objet sur lequel construire mon histoire, j'ai choisi la salle elle-même. La salle elle-même, vous voyez, elle est toute bleue. Très beau bleu. Le sol est bleu, le mur manque le plafond. Et c'est ce bleu-là qui m'a inspiré, ce bleu-là avec un assemblage complexe d'objets qui se trouve dedans. Donc, cette histoire de cristallisation, je vais vous raconter à partir de ce bleu-là, une histoire de cristallisation et une histoire de vie. Alors, ce bleu-là, moi, ça m'inspire quelque chose. Est-ce que ça vous inspire quelque chose aussi, ce bleu? Que peut avoir ce bleu? Océan, j'ai entendu océan. Vous inspire l'océan aussi? L'océan, l'océan. Tout le monde inspire l'océan, voilà. Voilà, une histoire de vie dans un océan. Tout à fait, moi ça m'inspire un océan, ça m'inspire de l'eau. Là, on est dans de l'eau. De l'eau dans lequel on a un bassin d'eau, un volume d'eau, une quantité d'eau. Et là-dedans, est-ce qu'il y a seulement de l'eau? Non. plein de choses dedans. Hein, plein de choses à ranger, poser, plein de choses. Vous aussi, vous êtes là-dedans, dans cette eau. Alors, qu'est-ce que c'est cette eau qui contient plein de choses? C'est quelque chose que, en science, en chimie, en physique, porte un nom. Ça s'appelle une solution. Une solution, c'est cet volume de l'eau, typiquement. Ça pourrait être des gaz, mais là, un liquide, essentiellement de l'eau. La vie telle qu'on la connaît, c'est dans de l'eau. Dans lequel flotte plein d'objets, plein de molécules, d'atomes. Les molécules sont des assemblages d'atomes. Et ils flottent dedans. Mais quand on flotte dedans, on ne flotte pas là comme ça. Là, on ne flotte pas dedans, là, on est posé. On flotte dedans en bougeant. Je voudrais là que nous bougions dans cette solution qu'est ce volume d'eau. Déambuler au hasard. Vous êtes un atome, vous êtes une molécule en solution dans un océan. Et vous déambulez au hasard. Alors c'est ce qui se passe dans une solution. Les molécules, elles bougent, elles se déplacent au hasard. Mais il y a une petite différence tout de même par rapport à vous, à nous là, qui déambulons au hasard. C'est le fait que vous, vous déambulez avec un moteur. Vous avez des muscles et vous avez un propulseur, vous avez un moteur qui vous fait déambuler au hasard. Dans une solution, les atomes, les molécules, elles bougent aussi, mais elles n'ont pas de moteur. Elles bougent au hasard par une énergie, c'est la température qui la fournit, l'énergie thermique. L'énergie thermique, ce sont toutes les vibrations, des vibrations qu'ont les molécules beaucoup plus petites qui composent l'eau, qui viennent agiter, bouger. Génie, tu vas être mon soluté. Volontaire. Alors j'appelle les molécules, les atomes qui sont dans l'eau, on les appelle les solutés, hein, qui sont les molécules qui flottent dans la solution, sont les solutions. Si tu veux bien, tu vas être mon soluté volontaire. Hein. Et il y a de l'eau, molécules d'eau tout autour, qui vibrent et qui vont donner des chocs. Qui vont donner des chocs à ma grosse molécule, pardon, hein, ma grande solution. Grosse par rapport aux petites molécules, et les chocs viennent de tous les côtés, viennent pousser de tous les côtés. En conséquence de cette agitation thermique, mon soluté va se déplacer au hasard, faire un mouvement au hasard, porte un nom, c'est un mouvement brownien, scientifique au 19e siècle qui avait observé ces mouvements sous microscope. De petits grains de pollen, de mouvement brownien, hein, qui après a été compris et expliqué beaucoup par Einstein, qui a relié la vibration de l'énergie thermique à la quantité, la distance de mouvement causé à des solutés en suspension. Alors, de combien elle va bouger, mon soluté? Ça va dépendre si les molécules d'eau s'agitent beaucoup. Et l'agitation des molécules d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est lié à la température. Plus la température est élevée, plus l'eau, elle s'agite vite. Elle s'agite vite et donc elle pousse fort. Il y a plein de chocs. Et le mouvement qu'ont les particules en suspension va se faire à une grande vitesse. Ce mouvement dans les particules en suspension, donc on a dit c'est le mouvement brownien, on dit aussi autre chose, c'est que ces molécules, les solutés, elles diffusent dans l'eau. Diffusent vite si la température de l'eau est élevée. Si la température de l'eau est faible, l'agitation des molécules d'eau est beaucoup plus faible, très faible, et donc la diffusion va se faire à faible vitesse. Donc, on est dans cette solution, vous êtes des solutés, et oui, l'eau vous fait bouger à une certaine vitesse, avec une certaine énergie, quoi. Là, je fais une action de démon pour vous bouger tout autour. Ok, donc, vous bougez dans cette salle, au hasard.
Attention.
Qu'est-ce qui va se passer? Attention à l'œuf même, la conservatrice nous alerte. Vous bougez partout au hasard. Mais là, vous ne bougez pas très bien au hasard. Vous ne bougez pas très bien au hasard parce que vous faites attention à quelque chose. Vous faites attention à vous éviter les uns des autres. Mais quand on bouge au hasard, il y a des chocs qui se font. Il y a des chocs entre les molécules en solution. Les chocs qui se produisent au hasard. Les chocs vont se faire d'autant plus qu'il y a beaucoup de solutés qui sont dans la solution. Si on était très nombreux là, évidemment, tac, 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 on se toucherait beaucoup. Vont se faire aussi davantage si la température est élevée. Et donc, pom, 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 vous bougez à grande vitesse, il y a une probabilité de collision qui va être plus élevée. Bon, très bien. Solution, température, mouvement brownien, diffusion de ce qui est en solution, choc entre les atomes. Il y a d'autres choses qui se passent. Quand des atomes se choquent, il peut se passer quelque chose. Chaque atome, des petits doigts, petites mains, et il peut s'accrocher. Il peut s'accrocher à un autre atome. Alors, il s'accroche avec une certaine force, mais bon, on est toujours soumis au mouvement brownien, à l'agitation de l'eau. On s'accroche et bon, on reçoit des chocs et ça peut casser des liens. Bon. Bougez avec vos petites mains qui vont faire des chocs. Et quand vous saisissez du bout des doigts un autre atome, ben, accrochez. Vous avez des doigts. Et si vous touchez un atome, vous allez former un atome. Visiblement, je dois vraiment faire un démon. L'autre atome aussi peut éventuellement lier. Ils ont fait une liaison. Formidable. Mais cette liaison, bah, n'oublions pas, il y a toujours de l'eau. Hein. Elle donne des coups. L'eau peut casser la liaison. Ce qu'on a illustré ici, c'est une réaction entre les deux molécules, une réaction d'association. D'association et une réaction de dissociation. Association, dissociation. De quoi ? De molécules là qui sont en diffusion dans l'eau. On vient d'illustrer ici un système qui porte le nom de système de réaction-diffusion. Les solutés dans votre solution, elle bouge au hasard, diffuse au hasard, d'où à l'agitation thermique, et il y a des chocs. Et si le choc est dans la bonne direction, c'est-à-dire, hop, là, c'est un choc qui est dans la mauvaise direction, parce que mes liens peuvent se faire comme ça, mais sont mal orientés, mais là, c'est un choc dans la bonne direction, je saisis, il y a une association qui se fait, qui peut se casser. Réaction et diffusion d'un système association-diffusion. Ok, très bien. Donc il y a plein de paires qui vont se constituer dans notre système de réaction-diffusion de manière transitoire. Au hasard, il y aura quelques paires qui vont se faire, qui vont durer un certain temps. Il y a une qui va se défaire, mais une autre va se faire là-bas. Donc en moyenne, il y a un certain nombre de paires comme ça.
C'est pas grave.
Qui vont se constituer. Formidable. Maintenant, si on était un peu plus nombreux, il pourrait se passer quelque chose d'autre. Il pourrait se passer des atomes volontaires par là, vos liens atomiques, liens atomiques, hop, tac, 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 tiens, une collision là. Il y a un boost, paf, troisième collision avec probabilité de liaison. Tiens, il peut y avoir des collisions à trois. Et des assemblages, là, un peu plus grands qui vont se faire. C'est très rare. C'est très rare, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y en a trois qui se rencontrent à peu près au même endroit. Et bien orientés. Ok, donc c'est rare. Donc, ça fait pas longtemps parce que c'est rare. Bon, mais ça se produit. Alors parfois, les atomes ont plus que deux petites mains pour faire des liaisons. Ils peuvent faire des liaisons devant, derrière, sur le côté. Donc, je peux me lier là, je peux me lier avec un atome qui arrive devant, hop, je suis lié là, je peux me lier avec un atome derrière, et parfois faire des structures liées de plusieurs façons. On va prendre des atomes volontaires par là, hop, vos liens, mais vous, non, peut-être inutile parce qu'il faudrait avoir un lien aussi sur le nez, ça derrière. Ok, première collision, on va se faire, paf, deux se rencontrent. Avec une probabilité assez faible, mais ça existe tout de même parfois, il y a une collision avec un troisième atome qui se fait. Paf, se lie par le devant. Ils sont proches, cet atome-là peut se lier aussi en transversal. Donc, tac, lui, il va être lié deux fois. Tac, 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 tac. Ça, c'est assez intéressant. Parce que il est lié là, ici, deux fois. Donc, ça veut dire que se détacher, là, va être beaucoup plus difficile. Parce que pour qu'il y ait cette dissociation, il faut que le lien là soit cassé. Mais ça ne suffit pas pour qu'il puisse s'échapper. Il faut qu'il y ait un second lien qui se passe. Mais avant que le second lien se casse, il y a toujours une probabilité que ce premier lien se rétablisse à nouveau parce qu'il est à côté. Donc, pour que là, cette structure, ce groupe de trois se défasse, il faut attendre longtemps parce qu'il faut attendre que deux liens carrément se cassent. Et c'est la même chose pour lui parce que lui, il est lié deux fois. Chaque élément ici est lié deux fois. Ça va être difficile à défaire ce couple de trois. Trois, c'est plus fort que deux. Donc ça, ça va être un noyau fort. On va appeler ce noyau fort, là, un point de nucléation. Ils sont forts, ils sont là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Enfin, ils sont là. S'il y a toujours l'agitation thermique, pam ! Il fait une collision. Et là, collision, tac, rangée, tac, 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 hop. Groupe de 4. Faible probabilité, mais ça passe. C'est ce petit noyau de nucléation à recruter une autre molécule ou un autre atome qui était bien rangé là. Et il est lié très fort, parce qu'il dit aussi tac, 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 ils sont liés, liés 1, 2, 3, même 3 fois. Ça commence à faire vraiment du costaud. Alors, vous me voyez venir. Par diffusion thermique, tac, vers le point de nucléation. Diffusion thermique, vers le point de nucléation. Tac, 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 tac. Bien rangé. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? En attendant, on est en train de faire un... Le démon de la diffusion amène... Eux, ils ne s'en rendent pas, ils sont très forts. Ah, lui, il pourrait s'en aller, là. Ah non, il est lié deux fois. Non, il est lié là. On est en train de fabriquer un élément régulier, on est en train de fabriquer un cristal. Ce qu'on vient de faire ici, c'est la fabrication d'un cristal. Et vous voyez, le cristal aussi, il est bien rangé. Tous les mêmes atomes, chacun a des liaisons devant, derrière, sur le côté et le diagonal. Un cristal, c'est un truc très régulier. Tac, 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 c'est des facettes. Quand il y a un qui manque, plap, c'est un angle bien net. Un cristal, super. On vient d'illustrer comment se forment les cristaux. C'est une solution. Des atomes qui diffusent au hasard par l'agitation thermique dans la solution. Un point de nucléation qui se fait par hasard parce qu'il y en a trois qui se retrouvent. Et l'agrégation autour de ce point de nucléation d'autres atomes pour se former un cristal. Et un cristal, c'est du solide. Donc, tac, 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 j'apporte plein d'énergie pour refaire former mon soluté. Nous avons le cristal. Voilà, le dernier point que je veux monter, c'est que bon, ce cristal, il s'est formé, et il est bien régulier, vous étiez une formation solide, la tortuga des Romains. Maintenant, vous êtes tous différents. Chacun de vous est une molécule de nature différente. Si chacun de vous est différent, chacun de vous va avoir un point actif pour des liaisons qui va être placé dans des endroits différents. Certains l'ont bien devant, derrière, sur le nez, sur le côté, mais d'autres peuvent l'avoir sur le pied, sur le haut, au niveau du genou, etc. On a une solution avec cet ensemble de protéines différentes qui diffusent dedans. Vous diffusez toujours, des mots, on diffuse. Toujours diffuser. Mais là, hop, vous vous liez comme ça. Vous, votre point d'association, il est là en bas comme ça. Là, il y en a un autre qui va se lier comme ça. Là, hop, elle se lie comme ça. On a une association qui va se faire. Il y a certains éléments qui peuvent se faire, association, dissociation. Mais là, on est en train de former une structure avec des protéines différentes, avec des formes différentes. On appelle ça un complexe chimique. La forme complexe veut bien dire qu'on a un assemblage qui est bizarroïde, complexe. On a illustré le point, vous pouvez... Donc, ce qui se passe là, de système de réaction-diffusion, d'assemblage par association-dissociation au hasard, de recrutement de points, de structures, hein, 2, 3, 4, 5, des centaines de composantes éventuellement, c'est ce qui se passe toujours dans le vivant, dans nos cellules. Dans nos cellules, les molécules de la vie, elles sont à une certaine température, température temporelle. Il y a plein d'eau qui est notre système notre liquide de solution. Il y a des solutés, toutes les protéines, les molécules de la vie, elles ne vont pas arrêter de diffuser grâce à l'agitation thermique, de former des complexes, des assemblages qui vont être les protéines, les grandes structures de la vie, qui vont être les molécules d'ADN, d'ARN, qui vont être des membranes. Tous ces éléments-là, toutes les molécules de la vie, les biomolécules, vont se former dans le vivant, dans les cellules, par ces réactions de réaction-diffusion, qui sont les mêmes que servent à la cristallographie, mais qui vont engendrer toute la complexité du vivant parce que la multiplicité des acteurs et la variété de chacun des acteurs. Donc, réaction-diffusion, tout ça, est à la base de l'ordre de la cristallographie, de la formation des matériaux de la Terre, mais c'est aussi les mêmes choses qui sont en jeu pour l'émergence, la fabrication du vivant. Dans cette structure, dans cette solution-là, qui est cette grande salle, on a eu ici un assemblage complexe de plein d'éléments qui ont diffusé et qui, d'une certaine manière, se sont assemblés. Mais on ne pourra pas faire, j'imagine, ici, des réactions de dissociation. Mais normalement, tout ça devrait flotter.
Si vous voulez venir au démontage de l'expo en janvier, vous pouvez.
Tout ça est gelé à température zéro jusqu'au démontage de l'exposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si sur les systèmes de réaction-diffusion, vous avez des questions sur comment elles se manifestent dans, dans les cellules, je réponds volontiers à vos questions maintenant ou après, je suis dans le campus.
C'est super clair. On l'a incarné.
La réaction-diffusion, vous avez là de la physique, c'est la thermique. L'agitation, hein. Calculer combien se déplacent les coefficients qui contrôlent à une température donnée, de combien se déplacent les solutés dans une solution, la physique, ce qu'on appelle la physique statistique, qui a été grandement développée il y a un peu plus d'un siècle, avec une grande contribution d'Albert Einstein là-dessus, c'est une contribution qui est moins connue que ses autres contributions sur la relativité, mais qui a été très très importante. Il y a dedans de la chimie. Alors qu'est-ce que c'est la chimie? La chimie, c'est le type de doigt que je fais, les interactions, la force d'interaction. Il y a dedans la chimie aussi sur les propriétés quand il y a un complexe à plusieurs qui se fait. Il y a les types d'interactions possibles changent. comprendre vraiment l'assemblage, la structure, la molécule, le complexe, ça c'est la chimie. Et il y a ensuite les applications notamment dans la biologie, dans la biologie qu'on appelle moléculaire, hein, au niveau des molécules, qui discutent des questions, comment par exemple les molécules se changent, sont transformées dans les cellules pour fournir de l'énergie, pour faire qu'une cellule puisse se reproduire, puisse continuer à vivre si l'environnement change. Donc tout ça c'est fait par des réactions entre biomolécules. Donc, la vie c'est avant tout un système de réaction-diffusion pour que tous les composants nécessaires s'assemblent. La vie c'est un système de réaction-diffusion très particulier parce que c'est un système de réaction-diffusion qui sait se reproduire. Donc les recherches qui sont faites sur qu'est-ce que c'est l'origine de la vie, le vivant, essaient de constituer des systèmes de réaction-diffusion avec des mixtures de composantes, hein, de grandes molécules, qui sachent se reproduire. Qui sachent s'étendre à partir de molécules, atomes plus petits dans l'environnement, sachent se reproduire, continuer dans le temps. Donc ce sont des systèmes que les chimistes essaient de faire, qui sont des systèmes qu'on dit autocatalytiques, qui arrivent à induire, la catalyse c'est induire, faciliter des réactions, l'autocatalytique c'est un système qui arrive à s'induire lui-même pour qu'il subsiste toujours. Mais s'il y a une partie qui s'abîme ou qui est enlevée, le reste du système arrive à se réparer et à reproduire. Donc le vivant, le voir comme un système de réaction-diffusion qui arrive à se réparer et à se reproduire. Donc, ce genre de cette thématique de recherche autour du vivant, sur les systèmes chimiques qui font le vivant, c'est une thématique de recherche qui est extrêmement interdisciplinaire parce qu'elle mêle donc la physique, la chimie et de la biologie. Et de plus en plus aussi des mathématiques et de l'informatique, parce que pour comprendre tous les concepts là ensemble, les outils nécessaires pour étudier ces questions-là, ce sont des outils mathématiques, poser des équations qui décrivent ces systèmes-là, et des outils informatiques qui aident à résoudre ces équations ou à simuler, donc une sorte de résolution, simuler comment ces systèmes-là se comportent. Ce que j'ai parlé, moi, de réaction-diffusion dans un fluide, ce sont des choses qui peuvent se passer aussi dans du gaz. Notre solution, c'est une solution gazeuse dans laquelle, dans ce gaz-là, flottent des molécules plus grosses qui se rencontrent, qui s'entrechoquent, s'associent, mais non pas en suspension dans le liquide, mais en suspension dans le gaz. Possible dans un gaz. Pour conclure, là, pourquoi on dit toujours que l'eau est indispensable à la vie? D'abord parce qu'on ne connaît pas de vie en dehors de l'eau. Mais le fait qu'on n'en connaisse pas, nous, sur Terre, de vie en dehors de l'eau, ça ne veut pas forcément dire que l'eau est indispensable à la vie. Certes, l'eau, tel qu'on le comprend, l'eau est indispensable à la vie. En tout cas, une solution est indispensable à la vie. Et sur Terre, l'eau est abondante, donc c'est un fluide qui peut servir de solution de manière commode parce qu'elle est abondante. L'eau est indispensable à la vie. La vie s'est construite avec l'eau comme fluide de solution pour permettre justement des réactions d'association, de dissociation pour constituer un système de réaction-diffusion qui forme ce qui est devenu le vivant. L'eau est indispensable à la vie parce que c'est ce qui permet d'amener des substances à réagir au bon endroit, et par hasard, par réaction-diffusion, mais je me lis dans un assemblage utile, Cet assemblage utile va faire quelque chose, va pouvoir produire certains déchets, par exemple des sous-produits de... Cet assemblage-là sert à produire de l'énergie, mais produire de l'énergie veut aussi dire produire des gaz d'échappement, des déchets. Et pour que le système vivant continue à vivre, il faut évacuer les déchets. Et ce même fluide, l'environnement, qui a amené les bonnes substances à être ensemble, va aussi se charger, par diffusion, d'évacuer les déchets. L'eau est indispensable à la vie pour constituer ce qu'on a discuté et ce qu'on a joué à faire tous ensemble là, un système de réaction-diffusion.
Merci encore.
Merci.